L'atelier des médias.
Avez-vous déjà essayé d'imaginer l'étendue de la mémoire du web ? Au-delà, avez-vous seulement réfléchi à l'usage que des historiens, des chercheurs, voire des romanciers pourront faire de nos sites et de toutes nos traces numériques ? En préparant cette émission, il y a un chiffre qui m'a donné le vertige. La Bibliothèque nationale de France archive le web depuis 2006. Résultat, fin 2015, elle hébergeait 26 milliards de fichiers. Et encore, la BNF, comme on l'appelle, ne collecte pas l'intégralité du web. D'abord parce qu'elle n'est pas toute seule en France. Il y a l'Institut national de l'audiovisuel qui l'aide dans cette folle mission. Mais aussi parce que l'Internet, c'est évidemment sans frontières. Imaginez un peu l'addition des sites, des pages, des vidéos, des forums et de toutes les plateformes connectées en ce bas monde, du .com au .org en passant par le .edu, du .lb au .bj en passant par le .fr. À quoi ressemble le résultat d'une telle addition ? À n'en pas douter, un chiffre immense que même les spécialistes sont bien en peine de vous donner avec certitude. Ceci dit, depuis 20 ans, il y a tout de même un projet, Internet Archive, qui s'est efforcé de moissonner la toile mondiale dans l'espoir de ne pas perdre une miette de ce que l'humanité a pu mettre en ligne. Et là, pour le coup, je peux vous donner un chiffre. Archive.org revendique sur sa page d'accueil 279 milliards de pages archivées depuis 1996. 1996, je ne sais pas si vous voyez.
Madame, monsieur, bonsoir. Le dicton téléphonique du jour, à la Saint-Luc, le 16 et le 19, désormais caduque. À 23h pile, grande révolution dans la numérotation téléphonique. Tous les numéros passent à 10 chiffres.
Cette semaine, je vous propose donc de faire un détour du côté de la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes allés voir ce que conservateurs et chercheurs tentent de faire pour garder la main sur la mémoire du temps présent en réfléchissant aux meilleures pratiques pour archiver l'Internet. En seconde partie d'émission et pour prolonger ces réflexions, nous parlerons traces numériques et récits de soi à l'heure de Facebook en compagnie de l'historien Yvan Jablonka, auteur en 2016 de l'essai Laetitia. Mais tout de suite, direction le Mali et on appelle Abdoussalam Hama à Bamako.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Bonjour Abdoussalam.
Bonjour Julien.
Abdoussalam, je vous appelle parce que vous êtes à Bamako et parce que vous faites partie de l'équipe qui travaille sur le site d'information sahelien.com, le premier site, je cite, d'actualité au Sahel. Alors pour la petite histoire, c'est Georges Attinot, qui est journaliste et mondoblogueur, qui a attiré mon attention sur votre site. Pour les auditeurs, je crois que sahelien.com est né en 2010 au nord du Mali, une région dont vous êtes originaire, Abdoussalam.
Et juste pour rectifier, sahelien.com a vu le jour, non pas en 2010, mais en 2012. Donc, l'idée de ce projet est venue lors de l'occupation du nord du Mali par les terroristes liés à Al-Qaïda. Donc, la zone était fermée aux journalistes et l'information provenant de ce milieu devenait très rare. Nous avons pensé à mettre en place un réseau de journalistes citoyens. Ce sont des habitants de ces localités qui sont formés sur les notions des bases de journalisme, les collectes d'informations. Et ils nous fournissent des vidéos qu'ils filment souvent avec leur téléphone.
Malgré tout, en 2014, vous avez pris un virage avec sahelien.com puisque vous avez recruté cette fois des journalistes professionnels. Pourquoi avoir changé votre fusil d'épaule et pourquoi vous appuyez sur des professionnels ?
L'enjeu diminue, l'enjeu de l'actualité sécuritaire diminue au fur et à mesure dans le nord du Mali, parce que au début on était focalisé uniquement au nord, mais on s'est dit l'enjeu sécuritaire quand même c'est un enjeu qui concerne tous les Sahel. Donc en début 2014, nous avons pris cette initiative d'élargir les réseaux de journalistes au nord du Mali, au Burkina et au Mali. Donc le réseau s'est élargi avec cette fois-ci des journalistes professionnels. Donc souvent des animateurs, comme c'est des zones où souvent c'est difficile de trouver des journalistes avec une bonne formation. Mais il y a quand même ceux qui ont une expérience de collecte d'informations comme les animateurs des radios. Donc c'est ces personnes avec lesquelles on a travaillé et on fait des formations continues pour pouvoir les former à cette nouvelle dynamique de requête d'informations d'actualité.
Pour les auditeurs, il serait peut-être bien de revenir sur le type d'informations que vous proposez sur sahelien.com, mais également finalement quel est le public vers lequel vous vous tournez.
Sahelien.com, en fait, nous ce que nous faisons c'est de l'information crue. jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est l'information. On donne une information parce que vu l'enjeu, on ne fait même pas de commentaires sur les informations.
On sent que chez vous, il y a un enjeu très important qui est effectivement de ne pas commenter par exemple la politique, mais de rendre compte de ce qu'il se passe ici ou là précisément.
Effectivement, parce que nous sommes dans une zone où l'actualité sécuritaire domine. Donc, ça est un point comme se focalise surtout sur les questions sécuritaires et surtout au nord. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons surtout et beaucoup sur les questions d'actualité. Beaucoup de nos sujets d'ailleurs sont sur l'actualité sécuritaire dans ces zones-là.
Je crois savoir que vous êtes en train de préparer une nouvelle version également de votre site avec des projets de développement. Vous en êtes où, Abdeslam ?
C'est une version qui comporte vraiment beaucoup d'onglets, avec vraiment une diversité. Cette fois-ci, nous allons traiter de l'histoire et sur l'actualité aussi. Nous allons commencer d'ailleurs à faire des articles d'opinion, parce que jusque-là, on ne le faisait pas. Donc, nous allons faire des articles d'opinion. Nous allons diversifier aussi. Et au-delà de l'aspect sécuritaire, nous allons traiter des articles de politique et tout.
Abdeslam, je rappelle aux auditeurs que vous faites partie de l'équipe de sahelien.com. Merci à vous.
Merci beaucoup, Julien. Merci pour cette invitation et cette opportunité que vous m'avez donnée pour parler de sahelien.com. Merci.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? Les GAFAM sont devenus des États comme les autres. Le Danemark s'apprête à nommer un ambassadeur numérique auprès des Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft pour être en mesure de mieux négocier avec ces géants du numérique qui sont aujourd'hui plus riches que bien des États. Le ministre danois des Affaires étrangères a eu la franchise de clarifier cette semaine les enjeux pour un pays comme le Danemark. Je cite « Dans le futur, nos relations bilatérales avec Google seront aussi importantes que celles que nous entretenons avec la Grèce ». D'ailleurs, quel est donc le mandat du futur techplomate danois ? Convaincre ces entreprises d'investir au Danemark. Il faut dire que d'immenses centres de données ou data centers sont déjà en construction au Danemark pour le compte d'Apple et de Facebook. Et le royaume du Danemark se rêve peut-être en meilleur allié européen des GAFAM. En tout cas, Laurent Calixte, que nous avions reçu il y a quelques semaines ici à l'Atelier des médias, pourra trouver dans cette brève un début de réponse à la question qu'il s'était posée. Les GAFAM sont peut-être devenus des partis politiques, il se pourrait bien qu'ils mutent très vite pour devenir des partis-États. On termine cette séquence brève avec deux initiatives. Il y a d'abord cette semaine le lancement d'une association, les Nouveaux Dissidents, qui ambitionne de devenir la plateforme d'échange pour les dissidents du monde entier. Alors, je vous vois venir avec votre question. Julien, qu'est-ce que c'est qu'un dissident ? C'est une personne qui entreprend à titre individuel, de façon non-violente, ouverte et transparente, des actions en faveur de la démocratie et de la liberté dans des pays où ces valeurs ne sont pas garanties ou sont menacées. Voilà, comme ça c'est dit, il n'y a pas de malentendu possible. Et on enchaîne avec le premier Fab Lab au Bénin qui se monte et qui lance une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Nous leur souhaitons bonne chance et nous tweetons dès à présent le lien pour ceux qui souhaitent les soutenir. D'ailleurs, pour ne rien perdre de ces liens, on tweet presque tout ce qu'on brève au micro, donc tous les liens sont à retrouver dès à présent sur le compte Twitter de l'Atelier, @atelier_media. Il était une fois dans le web, c'est le nom de la conférence organisée par la Bibliothèque nationale de France et l'Institut national de l'audiovisuel à Paris en novembre 2016, deux journées dédiées aux évolutions de l'archivage du web et à la reconnaissance du patrimoine numérique. Notre reporter Raphaël Constant est allé voir ces chercheurs qui réfléchissent à l'histoire, au présent et à l'avenir de nos archives connectées. On commence avec Valérie Schaeffer, qui est chargée de recherche à l'Institut des sciences de la communication au CNRS.
Les 20 ans de l'archivage du web, c'est en 1996, cette entreprise un peu folle que lance Brewster Kahle de créer Internet Archive, qui est une fondation états-unienne. Alors, c'est très très peu de temps après la naissance du web, hein, dont on peut rappeler qu'il naît à la fin des années 80, début des années 90. En 96, quand Brewster Kahle se lance, il y a assez peu, et surtout en France, d'usagers du web, et il se dit « je vais archiver la toile mondiale ». Alors évidemment, Internet Archive existe toujours. Par contre, l'ambition d'archiver la toile mondiale, elle était un peu revue à la baisse. Mais ils ont 450 milliards de pages de mémoire archivée, donc c'est extraordinaire. Donc on fête ces 20 ans de l'archivage du web par Internet Archive, mais aussi les 10 ans de la mise en place du dépôt légal du web en France, qui fait que l'Institut National d'Audiovisuel et la Bibliothèque Nationale de France ont pour mission aujourd'hui de collecter, alors ce qu'on appelle avec des gros guillemets, hein, s'il faut définir, mais le web français, et ce donc depuis 10 ans.
Hop hop hop, petite pause. Le dépôt légal, c'est l'obligation pour tout éditeur de déposer à la BNF chaque document qu'il édite, imprime, produit ou importe en France. Et ça, ça date de François Ier puisque c'est lui qui l'a institué en 1537. Ce dépôt légal est organisé pour permettre la collecte et la conservation des livres, des périodiques, bref, de tous les documents produits en France et ce, de manière méthodique. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est comme ça qu'on peut constituer des archives cohérentes pour les chercheurs ou encore pour les historiens. Depuis la loi droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, qui a été adoptée en 2006, ce dépôt légal concerne désormais tous les types de publications diffusées sur l'Internet, tant que les contenus édités ont un lien avec le territoire français. Maintenant, c'est un peu plus clair pour vous. Pourtant, concrètement, à l'heure du web social et des algorithmes, ça reste extrêmement compliqué à orchestrer. Valérie Schaeffer.
Alors, comment ça fonctionne concrètement? Il y a déjà un dispositif juridique qui a mis en place ce dépôt légal. Il y a eu un partage de responsabilités. Tout ce qui concerne l'audiovisuel, alors c'est pas seulement le site de TF1.fr, mais c'est aussi des contenus éventuellement de fans dédiés à une émission, à de l'audiovisuel. Tout ça, ça relève de l'INA. Tout le reste, on va dire, ça relève de la BNF qui s'appuie sur des listes, notamment fournies par l'AFNIC, qui est une association française de distribution, notamment des .fr, pour repérer les sites et savoir lesquels crawler, collecter. Alors, il y a des choix humains, combien de fois on va passer. Il y a une collecte annuelle très large, plus de 4,5 millions de domaines collectés à la BNF chaque année pour le .fr. Puis, il y a des collectes quotidiennes, par exemple, pour la presse. Et il y a donc des choix humains derrière, ce qui devient ensuite une opération technique, c'est-à-dire qu'ensuite on a des robots qui vont aller fouiller, archiver. Alors ils prennent pas tout le site, et parfois ils vont qu'à 2 clics de profondeur. Puis on peut archiver les hyperliens, des tas de métadonnées. Enfin, tout ça, c'est une hybridation entre des choix humains, des choix techniques faits par des hommes, mais aussi des restrictions techniques. Enfin, derrière, l'humain reste au cœur, évidemment.
Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'archivage sur une collecte précise?
Alors nous, on a eu un cas là qu'on a suivi qui était très intéressant parce que en temps réel, c'est l'archivage, malheureusement, des attentats de 2015, Bataclan et Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, l'expérience de Charlie Hebdo a aussi servi ensuite pour les collectes du Bataclan. Dans les deux cas, BNF INA, on lance à ce moment-là des collectes d'archives du web et de Twitter, avec la volonté de garder une trace, alors la plus représentative possible, exhaustif, c'était impossible, de ces événements. Je dis exhaustif, c'était très compliqué. Vous imaginez le flux Twitter qu'il y a eu au moment du Bataclan le vendredi 13 novembre. En temps réel, le responsable du DL Webina lance la collecte vers 23h et quelques. Donc on a les tout premiers tweets, mais ça se compte en millions de réactions. Et surtout, ils n'arrêtent pas la collecte au bout de quelques heures. C'est des collectes qui se poursuivent à la BNF, comme à l'INA, pendant plusieurs semaines à la suite des événements. Le but, c'est pas de choisir si on va prendre de l'information, si on va prendre des réactions. C'est de trouver déjà quelques bons hashtags à suivre. Mais les choix se font quasiment en temps réel, on n'a pas de recul. On est parfois dans une forme d'artisanat sur des événements qui sont là vraiment inattendus. Le reste du temps, sur les collectes as usual, là, il y a une politique beaucoup plus claire de fréquence. Il y a des correspondants côté BNF qui remontent aussi des suggestions de sites archivés. Enfin, donc là, on a pris l'exemple de quelque chose d'assez inattendu, évidemment.
Donc je suis Agnès Magnien, directrice des collections à l'Institut National de l'Audiovisuel. La particularité de l'INA, c'est que pour la radio et la télévision, en fait, on capte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 160 chaînes de radio et de télévision. Et que dans le cas du dépôt légal du web, on va aussi capter de manière exhaustive les sites web et une partie des réseaux sociaux concernant la communication audiovisuelle. Donc aujourd'hui, nous avons collecté pour l'INA plus de 14 000 sites web, donc depuis 2006, ainsi que 12 millions de vidéos et plus de 12 000 comptes Twitter, c'est-à-dire plus de 400 millions de tweets.
Qu'est-ce qu'on choisit ? Parce qu'on ne peut pas tout archiver, il ne faut peut-être pas d'ailleurs tout archiver. Donc qu'est-ce que vous allez chercher ?
Alors, de façon scientifique, on va nous cibler les chaînes, les blogs de téléspectateurs, de fans, les sites de journalistes, de producteurs, de maisons de production. Donc tout ça est un corpus assez fermé, mais on exerce une veille permanente qui nous permet d'élargir ou de supprimer des captations. Ensuite, il y a effectivement la question qui est plus technique, c'est à quel niveau de profondeur, à quelle fréquence va-t-on capter ? Pour le web, ce que nous avons mis en place, c'est une captation à chaque fois que le site est modifié éditorialement. Il y a peut-être une surcharge de mémoire et de données, mais en même temps, on accumule aussi une vraie trace de l'évolution. Et la particularité du web, c'est qu'il change très souvent. Donc c'est aussi cette mobilité dont on doit garder trace. Donc vraiment, le rôle des archivistes que nous sommes, c'est à défaut de faire une sélection, c'est au moins de proposer des outils qui permettent aux chercheurs cette sélection.
Alors, je m'appelle Louise Merzeau, je suis professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre.
Alors, à quoi ça sert d'archiver le web ?
Alors, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert d'abord à la recherche pour garantir un recours aux sources, c'est-à-dire que le web étant un média de flux et un média très instable, beaucoup de contenus disparaissent ou changent d'adresse, donc deviennent introuvables. Et comme par ailleurs, ça devient une ressource de plus en plus importante pour la presse, pour l'opinion, il devient évidemment indispensable de pouvoir retrouver les textes qui ont été publiés, les vidéos qui ont été diffusées. Donc il faut garantir et stabiliser en quelque sorte, grâce aux archives, le recours à la source. En fait, je pense qu'il suffit de réfléchir un tout petit peu à la place et l'importance qu'a prise le web aujourd'hui dans notre société, tout simplement, c'est-à-dire à la fois dans de nouvelles formes de sociabilité, notamment, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, à travers Twitter, à travers les blogs, mais bon, pas seulement, ça passe aussi par d'autres sortes de sites. Donc, c'est devenu omniprésent, c'est devenu une mémoire, je dirais, au quotidien. Beaucoup de gens utilisent le web pour vérifier le sens d'un mot, etc. C'est donc devenu aussi un lieu de recherche. Il y a des carnets de recherche, il y a des thèses en ligne. Et puis, c'est donc une ressource pour étudier des mouvements sociaux, des faits historiques. Du coup, on comprend, je pense, mieux l'importance, les enjeux d'archiver effectivement ce média, qui est un média très complexe, parce que c'est à la fois un média comme les autres, si on peut dire, comme la presse, comme la télé, et en même temps, c'est une sorte de méta-média qui englobe tous les autres, puisqu'on va retrouver la presse sur le web, on va retrouver la télévision sur le web ou la radio. Donc il y a des effets comme ça d'emboîtement qui, effectivement, complique un peu toutes les utilisations qu'on peut faire du web et qui nécessitent du coup l'élaboration d'outils spécifiques qui sont en eux-mêmes souvent assez complexes. Alors ce qui est très important aussi dans l'archivage institutionnel qui est fait ici à la BNF et à l'INA au titre du dépôt légal, c'est que ça permet aussi de donner un accès de droit à tous les citoyens. Et donc c'est aussi un moyen de contrecarrer les logiques d'enfermement, de concentration, de silos qui sont développées par tous les grands acteurs économiques du web aujourd'hui. Les réseaux sociaux, évidemment, on y est presque tous, mais en même temps, on n'a pas accès en tant que tel aux archives des réseaux sociaux et même des fois à nos propres données. Elles sont finalement verrouillées par ces acteurs. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu politique, encore une fois démocratique, vraiment essentiel dans le fait de penser collectivement et notamment institutionnellement l'archivage du web.
RFI. 20 ans d'archivage de l'Internet en France, un reportage de Raphaël Constant à retrouver prochainement en version longue sur atelier.rfi.fr. Ne bougez surtout pas parce que dans quelques minutes, j'ai l'honneur de recevoir Yvan Jablonka, un historien auteur de Laetitia, un essai qui interroge de manière particulièrement sensible ce que nos traces numériques disent de nous. À tout de suite après le flash. C'était Média, deuxième partie. J'ai parfois envie, au gré de mes lectures, d'inviter ce qu'on pourrait appeler de grands témoins.
Des individus qui, par leurs travaux, par leurs écrits, par leurs recherches, nous permettent de passer un cap dans la compréhension de nos intuitions pour tout ce qui concerne notre monde. Alors voici, nous allons essayer avec Ivan Jablonka, que je vais vous présenter dans quelques instants, de dialoguer avec l'un de ces grands témoins. Écoutez plutôt, et je partirai d'une simple expression. Il faut savoir revenir aux sources. Ici, à l'atelier des médias, on sait combien le monde change, combien les fils narratifs évoluent, combien le journalisme ou le travail d'enquête se métamorphose et plus généralement, combien l'accès à l'information a été transformé. Obsession du live et prolifération des formats tout info, blabla et commentaires à tout va sur les réseaux sociaux, mais aussi urgence permanente de la communication de crise ou encore diktat des images et des émotions qui menacent sans cesse notre jugement. Alors le plus simple et le plus sage, c'est peut-être de savoir revenir aux sources. Aux sources du métier d'abord, et je veux parler de celui de l'enquêteur, du journaliste ou du blogueur dont les techniques évoluent sans cesse. Mais revenir aux sources elles-mêmes aussi, puisque les sources ont changé parfois de nature avec les technologies numériques, parce que de nouvelles sources sont apparues avec toutes les traces que nous laissons plus ou moins volontairement sur les internets, et parce qu'on ne peut tout simplement pas se permettre de perdre une occasion de saisir un peu mieux la complexité des situations dont on essaie de parler. À cet égard, j'ai été frappé en lisant Laetitia d'Ivan Jablonka, un livre à la croisée de l'enquête journalistique, du travail d'historien et de l'essai, par la clarté de son propos, par son exigence, mais aussi par sa sensibilité. Ce travail n'est pas un ouvrage qui vient corriger nonchalamment le réel, donner des leçons de morale ou dénoncer une injustice caractérisée. C'est une réflexion ouverte sur l'enquête, sur l'enquêteur et sur son objet, en étant un pari assez fou, arracher une existence à son apparent destin. Non, la Laetitia dont il est question dans ce livre, ou Laetitia Perret pour la nommer, n'était pas seulement cet être pour la mort assassiné en 2011 dans des circonstances d'une inimaginable cruauté. Non, malgré les apparences, malgré toutes les séquences d'un fait divers à double ou à triple détente, malgré les quantités d'articles, de sujets dans les JT, de dépêches et de réactions, Laetitia Perret était d'abord une personne vivante, combative et capable de se projeter dans l'avenir. Bonjour Ivan Jablonka.
Bonjour.
Alors merci d'être venu. Depuis que vous avez obtenu le prix Médicis, j'imagine que vous n'en finissez plus d'être invité sur les plateaux, dans les salons du livre. Bref, à force de parler de ce livre, avez-vous encore le temps de lire ou d'écrire ?
D'abord, c'est toujours un plaisir d'être invité. Je vous remercie pour votre invitation. C'est un honneur de parler sur RFI. Et puis, j'ai pas trop le temps d'écrire, ça c'est vrai. Et puis, il faut laisser un petit peu du temps pour passer au prochain livre. En revanche, je lis. Et je lis de tout. Je lis la presse, je lis des romans, je lis des blogs. Je lis un peu de tout. Ça fait partie de mon hygiène de vie.
Alors, première question est toute simple avant de revenir sur votre méthode de travail dans Laetitia et sur ses enjeux pour nous. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce fait divers en particulier ?
Ça faisait longtemps que je voulais m'interroger sur le sens d'un fait divers pour notre société, mais je voulais pas faire comme des livres qui existent déjà et m'intéresser à la mort, au crime, au criminel, dans le fait divers. Je voulais prendre le contre-pied de cela et m'intéresser dans le fait divers, non pas tant à la victime qu'à la disparue, à l'absente, celle qui n'est plus là pour nous dire tout ce qu'elle a vécu.
Alors aidez-nous peut-être, si vous le voulez bien, à revenir sur le cas de Laetitia Perret, avant de parler du livre lui-même. Donc, si je me trompe pas, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laetitia Perret, qui avait alors 18 ans, a été enlevée à 50 mètres de chez elle, on est du côté de Pornic, avant d'être poignardée, étranglée et démembrée. Et il a fallu des semaines pour retrouver son corps. Et ça, c'est, en un certain sens, la phase 1 ou le point d'entrée dans ce fait divers. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur le contexte, notamment familial, autour de Laetitia Perret, Ivan Jablonka?
On est en effet en janvier 2011 et Laetitia Perret, qui a 18 ans et qui est serveuse, est une jeune fille sans histoire, qui ne boit pas, ne fume pas, sort très peu. Et puis, tout à coup, elle disparaît. Elle disparaît parce que elle a rencontré un homme et plus exactement, elle l'a suivi sans percevoir sa dangerosité. Et donc, elle disparaît dans la nuit du mardi au mercredi, alors qu'on est en pleine semaine, elle travaille le lendemain, dans ce mois de janvier 2011. Et à partir de là, c'est un emballement médiatique. Tous les médias de France, toute la presse nationale, audiovisuelle et écrite, titrent sur sa disparition. Le président de la République en personne, Nicolas Sarkozy, s'empare de l'affaire et intervient pour essayer de savoir ce qui s'est passé et plus exactement réclamer un durcissement de la législation pénale, puis dans un deuxième temps, attaquer les magistrats qui auraient mal fait leur travail.
Ce qui est assez troublant en lisant votre livre, c'est que si on regarde son contexte familial, son milieu d'origine, son histoire, on a l'impression qu'on a tous les éléments pour avoir une sorte de fait divers. C'est assez troublant. Elle est entourée de violences infligées aux femmes, aux enfants, d'alcoolisme. On voit que déjà les éléments étaient réunis pour que quelque chose advienne.
Laetitia Perret est née dans les années 90 dans un milieu très défavorisé à Nantes. Il y avait dans sa famille des problèmes d'alcoolisme, de violence de son père sur sa mère en particulier. Et donc Laetitia et sa sœur jumelle ont été retirées très tôt à leur famille et placées dans un foyer, puis dans une famille d'accueil où il y a eu à nouveau des violences sexuelles. Donc vous avez raison de dire que Laetitia Perret a été, sinon la victime, du moins le témoin de nombreuses violences physiques, sexuelles, masculines. Et ça, ça a évidemment constitué une forme de traumatisme qui parcourt toute sa vie. Et quand elle rencontre cet homme qui va être son meurtrier, peut-être qu'elle n'a pas perçu la dangerosité de ce dernier, parce que pour elle, un homme, c'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui vous frappe, c'est quelqu'un qui vous manipule.
Il y a aussi donc le meurtre lui-même qui a contribué à fabriquer les éléments qui ont fait de ce fait divers une sorte de fait divers extraordinaire. L'assassin n'est pas n'importe quel assassin, puisqu'il s'agit de Tony Meillon, qui est un personnage qui en a vu des vertes et des pas mûres lui-même, puisque son contexte familial, ou ce qu'on pourrait appeler son histoire, laisse à penser que pour lui, la vie a été tout sauf une chose facile.
Le fait divers m'a intéressé parce qu'il est hors norme, il est exceptionnel. Par la violence du crime, par son caractère odieux, par la personnalité du meurtrier qui a eu une enfance complètement chaotique, fracassée, un peu comme sa victime d'ailleurs.
Absolument.
Et puis, il y a aussi le fait qu'on a mis 3 mois à retrouver le corps de Laetitia, et ça a aussi ajouté à la peine de la famille et à l'horreur de l'affaire. Et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'aspect d'affaire d'État. C'est pas un simple fait divers, c'est une affaire d'État. Parce que le président de la République s'en empare, parce que à la suite de ces attaques contre la magistrature, celle-ci se met en grève, et des magistrats qui se mettent en grève dans toute la France, c'est quelque chose de sans précédent, de complètement inouï dans l'histoire contemporaine française. Tout ça m'a intéressé.
L-A-E dans l'art, T-I-T-I-A. L-A-E dans l'art, T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A-E dans l'A, T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans l'A, T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces 8 lettres-là. L-A-E dans l'A, T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans l'A, T-I-T-I-A.
Alors justement, dans votre livre, Laetitia, on a une sorte de description claire et objective du travail justement de ces journalistes, avec un séquençage qui permet de comprendre comment la nature médiatique a horreur du vide et la façon dont on essaie finalement d'occuper le terrain, a fortiori quand le président de la République s'est emparé de l'affaire. Et vous revenez sur plusieurs figures. Je pense par exemple à la journaliste de l'AFP, l'agence France Presse, qui sent tout de suite finalement l'affaire monter. Donc je parle d'Alexandra Turca, qui à l'époque est basée à Nantes. Une figure absolument fascinante quand on lit livre, puisqu'on comprend que très vite elle mesure ce qui va se passer. Yvan Jablanca.
Oui, c'est une journaliste qui m'a d'abord beaucoup aidé. C'est une femme remarquable, une grande professionnelle. Et là, pour moi, historien, moi je suis plutôt habitué au long terme. Je suis habitué à travailler avec une longue haleine. Et pour moi, historien, il y avait quelque chose de fascinant parce que elle et moi, on est des enquêteurs, mais on fait pas exactement le même métier. Elle est dans l'immédiat, l'information,
l'urgence,
l'actualité, parce que c'est ce que veut au fond le téléspectateur ou le lecteur. Et moi, je suis dans le moyen terme ou le long terme, et j'ai essayé de comprendre, par exemple, comment la vie de Laetitia résonnait avec l'histoire des violences subies par les femmes ou l'histoire de la vulnérabilité des enfants. Et ça, c'est un travail qui est un travail d'enquêteur, mais c'est un travail qui est beaucoup plus historien ou sociologique et beaucoup moins donc journalistique. Mais ça n'empêche que toutes ces enquêtes, toutes nos enquêtes, ont contribué à mieux comprendre la vie et la mort de Laetitia.
Autre figure journalistique que l'on peut retrouver finalement dans votre livre, Laetitia, ce sont tous ces journalistes télé, le Tout Info, et ces camions notamment qui se gardent devant la maison de la famille d'accueil, puisque chacun cherche très vite, puisqu'il faut montrer, il faut désigner, il faut réussir à visualiser la situation, chacun cherche à s'arracher les photos de Laetitia. Et c'est une sorte de meute finalement qui est venue prendre le pouvoir sur les habitants de la route de la Rogère, non loin de la Bernerie, et on sent que finalement tout à coup, ce fait divers est en train de transformer l'espace sur place et il y a une tyrannie du besoin d'information.
Alors une tyrannie, vous êtes sévère avec votre propre corporation. Après tout, tyrannie, moi je vais vous répondre aussi démocratie. On a envie de savoir ce qui se passe dans notre société. Une jeune fille de 18 ans qui se fait massacrer, c'est pas une anecdote, c'est pas un fait divers, c'est même un fait social, c'est un fait d'histoire. Et donc les journalistes sont là pour répondre à une demande sociale. Ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Alors effectivement, il y a la question par exemple de la vie privée. Vous avez dit qu'il y avait des camions avec leurs antennes paraboliques qui campaient devant la maison des ou les maisons des différents acteurs. C'est vrai que ça n'a pas été une période facile pour ces acteurs qui, par ailleurs, étaient aussi en train de subir la perte de quelqu'un, d'un être cher. Donc, pour eux, ça a été terrible. Alors, c'est vrai que on peut s'interroger aussi sur la déontologie des journalistes. Est-ce qu'il faut comme ça qu'ils soient tellement intrusifs? Et en même temps, il faut toujours garder en mémoire que il y a un travail, il y a la pression de la rédaction, il y a une demande sociale, et que ça fait partie d'un fonctionnement collectif. On ne peut pas dénoncer les uns, dire que les autres sont des victimes. C'est un fonctionnement collectif qui est intéressant en tant que tel.
Dans une enquête et dans les sources du récit journalistique, vous faites l'écho notamment de ce qu'on appelle la fuite. La fuite dans le cadre d'une enquête qui permet justement de documenter et de faire remonter un certain nombre d'informations, y compris dans les dépêches. Et vous écrivez, la fuite, en gros, dans un pays centralisé comme la France, vient toujours de Paris. C'est qui en fait qui est derrière ces fuites? C'est assez étrange d'imaginer qu'à Nantes on enquête mais on attend qu'à Paris on donne le signal pour avoir l'information.
Alors la fuite c'est un objet juridique, journalistique, historique fascinant. La fuite c'est ce qui est rendu public de manière illégale, de manière indue, dans un dossier, dans une enquête qui est en cours. Et comme chacun sait, il y a un secret de l'instruction, et la fuite, c'est précisément ce qui vient violer
ce secret
de l'instruction. Et en même temps, c'est là-dessus qu'un certain nombre de reportages, d'articles reposent. Les journalistes ont besoin de fuite, ils les provoquent, ils s'en servent, ils en profitent, et en même temps, c'est toute la société qui attend justement des informations sur le profil de la victime et le parcours des enquêteurs. Alors, les fuites dans l'affaire Laetitia ont été innombrables, et ça a sans doute aussi compliqué le travail des enquêteurs, des gendarmes, et ça a sans doute aussi redoublé la peine des proches de Laetitia, qui apprenaient parfois par la presse ce qui était arrivé à leur sœur, leur fille, leur nièce, etc. Alors là aussi, c'est un fonctionnement qui est gênant, qui est pénible et qui peut évidemment poser des questions déontologiques. Maintenant, si on retire des sources anonymes et les fuites aux journalistes, je ne sais pas ce qui va leur rester. Alors, il leur restera des communiqués de presse officiels et
des magistrats. Donc, on voit d'ailleurs qu'ils sont extrêmement présents aussi dans le récit.
Oui, mais enfin, il restera aux journalistes des éléments de langage, de la com d'entreprise et la langue de bois des politiques. Et c'est sans doute l'information et la démocratie qui y perdront à la fin.
Ce qui est assez fascinant quand on observe votre travail, c'est finalement qu'on prend un peu de recul sur la notion de fait divers. Et justement, au terme de ce séquençage sur lequel vous revenez, vous commencez et vous pouvez vous permettre de prendre du recul sur cette notion de fait divers. Qu'est-ce que c'est précisément un fait divers? Quelle drôle d'expression, fait divers.
Oui, je vous le fais pas dire, c'est une drôle d'expression. Et c'est pour ça que je dis fait divers, parce qu'il faut que je me fasse comprendre. Mais si je pouvais changer d'expression, je le ferais. C'est pas un fait, c'est quelque chose d'infiniment plus complexe. C'est un fait social total qui implique toute une société. Et puis ensuite, il n'a rien de divers. C'est un drame, c'est une tragédie qui brise la vie de plusieurs personnes, qui envoie quelqu'un en prison. Donc, un fait divers, quel drôle de terme. Il y a même des journalistes qui parlent de chien écrasé en termes encore plus familiers. Et c'est quelque chose de choquant. On sait très bien qu'un fait divers, c'est quelque chose... Il y a une profondeur humaine, il y a une complexité de souffrance, de vie quotidienne, de violence sociale qu'on ne peut pas résumer avec cette expression. Donc pour moi, le fait divers, je dirais plutôt que c'est comme un prisme qui enverrait sa lumière dans toutes les directions, du côté de l'exécutif, du côté des médias, de la justice, et puis aussi du côté du pays tout entier. La violence masculine, la vulnérabilité des enfants, une France silencieuse, périurbaine, dont on parle très peu, et là encore, ce que j'appellerais au sens large le pays profond, c'est quelque chose qui dépasse de très loin la France. Dans tous les pays, il y a ce genre de violence, où il y a aussi ces failles de la démocratie, et donc un fait divers, ici ce fait divers français, nous renseigne sur... tout un fonctionnement social dans les cinq continents.
Et le fait divers a aussi une profondeur historique, notamment dans l'histoire du journalisme et des récits médiatiques. Et c'est assez étrange, vous revenez sur l'évolution des perceptions de cette notion de fait divers. Alors par exemple, pour les conservateurs, c'est malsain de parler de fait divers, c'est presque pousse au crime.
Oui, le fait divers a une histoire. Et cette histoire remonte pour la France au XVIe siècle, aux guerres de religion. C'est la première fois que, dans ce qui n'était pas à l'époque la presse, mais enfin des publicistes, des écrivains, se sont intéressés comme ça à des affaires horribles, des crimes, incendies, empoisonnements, viols, meurtres. Et donc il y a comme ça une espèce de fascination un peu baroque pour le sang, le crime, le meurtre. Le grand siècle des faits divers, c'est le 19e siècle, parce que c'est le moment où la presse devient une presse populaire, une presse de masse, et des millions de lecteurs alphabétisés qui sont allés à l'école, qui peuvent donc lire, s'intéressent à ces espèces de petites sagas sanglantes, bestiales, un peu impressionnantes et puis en même temps effrayantes, qui scandent le quotidien. Et donc, au XIXe siècle, vous avez un certain nombre d'organes de presse qui, comme ça, racontent des crimes au quotidien et qui fascinent le grand public dans ces histoires horrifique.
Et on a donc une partie du public qui se dit, mais mince, on ne peut pas comme ça raconter et exposer sur la place publique tous ces crimes, ça pose des problèmes de morale. Et de l'autre côté, on a ceux que vous qualifiez, mais alors là on est plutôt au XXe siècle, les post-marxistes, pour lesquels le fait divers finalement c'est réac. Pourquoi ? Parce que au lieu de parler des vraies questions qui concernent le sort de la population, l'économie, le fait divers finalement fait diversion.
Voilà, c'est comme si le fait divers empêchait de parler des vraies questions, entre guillemets. Alors les vraies questions, ça pourrait être la guerre, la faim dans le monde, les inégalités. Bien sûr que ce sont des vraies questions, mais je crois que le fait divers est aussi une vraie question. La violence au quotidien, l'inégalité entre les hommes et les femmes, et en particulier du point de vue de la violence, ça ce sont aussi des vraies questions. Moi ce qui m'a le plus intéressé dans ce fait divers, au-delà de son espèce de caisse de résonance vis-à-vis de toute la société, ce qui m'a intéressé aussi c'était de renverser la perspective et de parler de celle que tout le monde oublie, la disparue, la victime. Et dans un récit de faits divers classique, la victime, elle est là pour ça. On s'intéresse à elle, non pas pour sa vie, mais pour sa mort.
D'ailleurs, Yvan Chablonka, vous nous emmenez finalement sur le dernier aspect que j'avais envie d'aborder avec vous ici dans l'atelier des médias, puisque au cœur de votre livre, Laetitia, il y a la question de la trace et de la trace numérique et de l'archive intime. Oui, puisque toutes ces traces, on en trouve notamment sur Internet, en tapant sur Google Laetitia Perret, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Sur YouTube, vous avez plus de 500 résultats. Mais vous avez utilisé beaucoup de sources ouvertes, j'imagine, pour vous documenter, c'est-à-dire en googlisant comme on le fait tous. Et puis, vous avez essayé de vous approcher de ce qu'on pourrait appeler l'infraordinaire. Qu'est-ce que c'est l'infraordinaire, Yvan Chablonka ?
L'infraordinaire, c'est notre quotidien, notre décor ordinaire, qui est tellement banal qu'on l'a oublié. La brosse à dents avec laquelle nous nous brossons les dents matin et soir, ça c'est l'infraordinaire. La brosse à dents a une histoire, alors pardonnez-moi de le dire de manière un petit peu comme ça, anecdotique, mais un trottoir dans la rue, une voiture, la manière dont nous parlons, le studio dans lequel nous sommes ici, ça c'est l'infraordinaire. Nous avons oublié que ça avait un sens et pourtant c'est fondamental dans nos vies. Et donc j'ai voulu rappeler que la vie de Laetitia Perret avait sa dignité, son intérêt, sa singularité à travers des traces infimes qu'est l'infraordinaire. Son compte Facebook par exemple. 1,7 milliard d'êtres humains ont aujourd'hui un compte Facebook. Voilà de l'infraordinaire, et pourtant c'est fondamental. Le compte Facebook de Laetitia, c'est une source historique dont je me suis servi. Il y a la trace de son bonheur, de ses relations de famille, de ses amitiés, de ses amours, de ses vacances, et ça nous dit infiniment de choses sur cette vie ordinaire qu'a été celle de Laetitia, dans son bonheur, dans ses peines, et le compte Facebook, ça fait partie des traces que nous laissons. C'est une question qu'on a tous à se poser. Quelles traces laisserons-nous après notre mort ? Notre compte Facebook, peut-être.
Mais alors, justement, quand on suit votre travail, c'est là où c'est extrêmement fascinant, c'est que justement, on arrive à prendre du recul par rapport à l'ensemble de tous ces récits médiatiques et de tous ces personnages dont on parlait pour remettre Laetitia, finalement, au centre de cette récit qui est le récit de son existence. On retrace ou on retrouve une forme d'identité narrative. Et je me suis même dit, à un moment donné, c'est presque une enquête stalkée. Vous voyez ce que ça veut dire, stalkée ?
Oui, bien sûr. Mais là, je suis moins d'accord avec vous parce que un stalker, c'est quelqu'un qui vient épier l'intimité des gens. Et moi, dans mon livre, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de scoop. En gros, tout était déjà public. Et quand j'ai rencontré les proches de Laetitia, ils ont tous accepté de me rencontrer parce que ils pensaient comme moi que Laetitia n'est pas un fait divers. Laetitia, c'était une jeune fille qui ne demandait qu'à vivre, qui aimait boire des Coca-Cola à la terrasse des cafés, qui aimait bien se baigner dans l'Atlantique quand le temps le permettait, qui avait des amis et des petits copains. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait classique, je crois, pour une jeune fille de 17 ou 18 ans. Donc elle a eu sa part de normalité, sa part de bonheur, et ça aussi, c'était mon livre.
Vous avez pris le temps de retracer et de comprendre et de vous approprier le récit de cette personne en retrouvant toutes ses photos, voire même ces expressions assez troublantes où on la voit mettre, comme on dit, des statuts sur son propre compte Facebook et on la sent plus combative que jamais. Elle a un boulot, elle a un travail et toutes ces expressions de soi en fait sont extrêmement loin du personnage médiatique et de ce personnage que l'on retrouvait dans tous ces récits, dans les articles et le tout info. En fait, avec l'enquête telle que vous la fabriquez, on réussit à mettre ou à remettre au centre d'un destin le personnage lui-même qu'est Laetitia.
Alors c'est vrai que c'est peut-être là que l'atelier des médias et l'atelier de l'historien divergent. C'est vrai que c'est plus le même lieu, parce que les médias, à tort ou à raison, et certainement à leur corps défendant, ont érigé cette figure un peu paradoxale dont je parlais, une espèce de sainte, une victime. Alors, bien sûr que Laetitia est une victime, mais on ne peut pas la réduire au crime qu'il a emporté. Et moi, mon travail, et là on est dans l'atelier de l'historien, c'est une enquête de vie, de la naissance jusqu'à la mort, mais plus largement, c'est une enquête à travers les siècles. La violence subie par les femmes, c'est quelque chose qui n'est pas propre ni à un milieu social, ni au XXIe siècle. Donc moi, en tant qu'historien, c'était intéressant pour moi de remonter les siècles et de ne pas limiter Laetitia aux 18 ans qu'elle a vécu. Pour bien comprendre Laetitia, il faut remonter au XIXe siècle. Alors ça vous surprendra peut-être, et puis ça surprendra peut-être un journaliste. Mais oui, le XVIIIe siècle, c'est un siècle où, par exemple, des jeunes filles écrivaient des journaux intimes, comme Laetitia, son compte Facebook. Il faut remonter au XIXe siècle, ce siècle des faits divers. Il faut remonter aussi à l'histoire de l'assistance publique, ce service public qui s'occupait des enfants sans famille. Et il faut faire donc des histoires qui remontent les siècles et qui sont bien plus larges que la stricte actu, que la stricte information.
En fait, c'est la force de votre livre, c'est de réussir à la fois à restituer à la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire personnelle de Laetitia, toute sa force, toute son énergie, toute son authenticité, tout en la mettant en perspective avec une forme de perspective historique et en disant ce qui est arrivé à Laetitia, c'est un phénomène social total qui s'inscrit très bien dans son siècle et dans sa société.
Je dirais plutôt que mon enquête repose sur d'autres enquêtes. Mon enquête fédère d'autres enquêtes. L'enquête journalistique, l'enquête des gendarmes, l'enquête des juges d'instruction. Et toutes ces enquêtes, j'ai essayé de les associer, de les fédérer, de les englober dans une méta-enquête qui serait la mienne et qui entre dans l'espace des siècles. Et encore une fois, on pourrait croire que Laetitia n'a vécu que 18 ans, mais moi je vous dis qu'elle a vécu des siècles. Et ça, c'est l'historien qui parle, parce que Laetitia, pour la comprendre, il faut avoir la compréhension plus globale de son milieu social, d'une société, de l'inscription des enfants et des femmes dans une démocratie avec ses grandeurs, ses petitesses et aussi ses échecs. Et ça, seule une méta-enquête, une enquête historique, sociologique, permettait comme ça de comprendre à l'échelle des décennies et des siècles une vie que sinon on résumerait à quelques traces de sang dans une voiture volée.
Allez, deux petites choses avant de se séparer. Yvan Jablonka, vous citez dans votre ouvrage Patrick Modiano, donc prix Nobel de littérature en 2014, avec cette phrase « J'ai toujours cru que le poète ou le romancier donnait du mystère aux êtres qui semblent submergés par la vie quotidienne aux choses en apparence banales. » Et ce dernier, donc Patrick Modiano, ajoute que c'est leur fonction principale que de, je cite, « dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouve au fond de chaque personne. » En fait, votre livre, c'est presque une invitation. À l'heure des réseaux sociaux et de la prolifération des récits de soi, on a une occasion historique unique d'essayer de pouvoir se comprendre et de partager nos singularités par-delà les apparences et les récits ordinaires. Je me trompe ?
Non, j'abonde complètement dans votre sens et vous le dites vraiment de manière parfaite. C'est pas moi, historien, qui suis venu avec ma lampe de poche balayer l'obscurité pour essayer de jeter de la lumière dans une humanité obscure et oubliée. C'est plutôt la phosphorescence de Laetitia qui l'illumine.
Yvan Jablonka, je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur de Laetitia, un ouvrage publié aux éditions du Seuil. Merci d'être venu partager vos réflexions avec nous en studio. Merci.
Merci, merci à vous.
Vous pourrez retrouver toutes ces références sur atelier.rfi.fr. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Raphaël Constant, Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI, merci d'être à notre écoute.
Suivez la Coupe d'Afrique des Nations.